Merci.
Voilà, merci. Ah bah oui, je c'est quoi? C'est du vin, c'est du vin de chimère. Du mas de chimère.
C'est du mas de chimère.
Mas de chimère.
Des chimères.
Alors, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, c'est parti. L'émission est ouverte pour... passe-moi le cercle. Alors, là, exceptionnellement, maintenant, j'ai la bonne, c'est qu'on a posé l'ordinateur et la table. Et le mixage, c'est sur la table où sont en train de... l'apéro, les différents convives. À la bonne vôtre, pour cette émission. Passe-moi le cercle.
On se regarde dans les yeux.
Il faut se regarder dans les yeux.
Dans les yeux.
Welcome à Olivier, à Pascal, à Julien. Salut. Et puis bien sûr l'émission par Sarah et moi. À la vôtre, c'est parti.
Santé.
Pascal, on peut commencer par toi. Juste à reparler pour. On va pas faire de pub pour les balades d'Anne.
Ah bah non.
Mais tu nous en parlais, est-ce que tu fais ça depuis combien de temps?
Vous étiez même pas né, je crois, quand j'ai commencé.
C'est un peu abusé.
Oui, non, non, à peine. Mais mes premières randos, ça remonte à 79.
Ouais,
ouais. Non,
je t'ai pas né.
Voilà, tu vois. 79.
Je t'ai pas né non plus.
À l'époque, on était 4 en France. Et donc, on s'était évidemment tous retrouvés. Parce que tous, on avait des parcours dont on peut imaginer les genèses. Moi, pendant un temps, moi, j'étais d'abord étudiant à Paris. J'étais étudiant à Paris au moment de 68. Et on peut dire que ça a changé ma vie. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Ah ouais?
Voilà. Ben oui.
Alors moi, je faisais
Sciences Po et droit. Ah. Et puis à la fin, je m'étais dit, bah non, je vais aller jusqu'au bout du cursus parce que si on prend le pouvoir, il y aura besoin de gens pour assurer le steak pour la classe ouvrière. Et donc, j'ai été jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
C'est quoi,
après,
jusqu'au bout?
Et eh ben j'ai terminé Sciences Po, j'ai fait un doctorat bien.
Ah oui, quand même.
Voilà. Et puis quand j'ai vu qu'en fait on ne prendrait pas le pouvoir, je me suis dit, prenons le maquis. Je prends pas. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ma maison en masse de Riols, qui était à l'époque une grande ferme plus ou moins en ruine, les toits étaient un peu dans le sac, il y avait des ruines partout, mais ça valait rien, ça valait une poignée de cacahuètes. J'ai acheté ma maison avec en grande partie. C'est pas bien, hein. Une bourse de troisième cycle, je faisais une recherche avec Roland Barthes. Ça vous dit quelque chose, Roland Barthes? Voilà. C'était donc avec Roland Barthes à l'école pratique des hautes études en sciences sociales. Et à l'époque, il y avait les bourses étaient relativement importantes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et les bourses de recherche, j'entends. Et du coup, avec la bourse, j'ai pu, en empruntant un peu de sous à un copain, acheter ma maison. Et puis à l'époque, j'habite encore Paris, et puis on est venu. Et la première chose qu'il faisait, c'était, après l'Arzac aussi, première chose, des chèvres, naturellement. Donc on avait un troupeau de chèvres, on travaillait, on faisait des fromages, chose que j'avais jamais fait avant, mais on a appris. Pas vraiment, parce que j'étais un politique, hein, et donc voilà. Et donc les babacoules, on les prenait pour des, stupidement, pour des décadents petits bourgeois. Ce qui était évidemment absurde, je le sais aujourd'hui, voilà.
On voit pas, mais il y a des gestes.
Les
gens ne voient pas tous. Voilà.
Et puis au début, donc les chèvres, et puis on a monté un gîte, une ferme auberge. Donc on a tenu pendant une bonne quinzaine d'années.
Et puis
à l'époque, avec ma première compagne, qui était venue avec moi de Paris. Mais bon, ce genre de vie use rapidement les compagnes. Voilà, même si elles sont de bonnes compétitions, c'est des vies où tu brasses, quoi. Voilà, donc,
le couple ou la compagne?
Les deux, je pense. Oui, je pense les deux. Puis voilà, c'est bon. Puis tout le monde n'a pas forcément les mêmes rêves. Les mêmes, tu vois,
oui,
les
c'est
rêves.
Ça aussi.
Voilà, tu viens avec un rêve de fleurs, petits oiseaux, puis quand après le rêve, c'est le ciment, le béton, écouler les dalles jusqu'à 2h du mat, et puis se les cailler, et voilà. C'est, le rêve est des fois un peu plus difficile.
Ah, et oui.
Voilà. Mais bon, néanmoins, le rêve a continué. Et puis les premiers ânes, je les ai pris pour mes enfants. Quand je suis arrivé, l'aîné de mes enfants, il avait 4 ans, et le plus petit, 4 mois. Et puis voilà, on a pris un premier âne, et puis Marguerite, petite ânesse adorable, très gentille, qui était chez un monsieur qui taquinait un peu la dive bouteille, si bien qu'il la battait des fois. Mmh. Et quand elle est arrivée chez nous, tout de suite, elle se collait à moi, en disant « Garde-moi, garde-moi, je ne veux pas retourner chez lui !» Donc évidemment, on l'a gardée, puis après je me suis dit qu'elle allait s'embêter seule. Donc tac, on a pris un deuxième, puis un troisième, puis voilà, on a monté les premières randos. Et à l'époque, avec les quelques-uns qui avaient monté les premières randos, on s'est retrouvés. On s'est évidemment tombés dans les bras les uns des autres, parce que c'était le même genre de modèle. Et puis on a monté un groupement qui s'appelait l'Association Nationale Ânes et Randonnées. Parce que le cycle faisait Anard. Et ça nous plaisait à un point que j'aurais du mal à dire.
Voilà.
Et puis ben, voilà, le groupement a grandi. Il est devenu après plus unanimiste. Donc d'Anard, on est passé à FNAR, Fédération Nationale. Ça, tout de suite, ça tombait dans la décadence. Et puis, et voilà. Mais ça a continué, puis ça a marché de mieux en mieux. Au début, quand on a commencé, comme on était très peu nombreux, et que les journaleux, ils ont toujours envie d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent, on a eu 30 millions d'amis deux ou trois fois. On a eu la BBC, on a eu des télés allemandes, un tas de trucs. Donc ça a rempli plein de saisons, comme ça. Mmh. Voilà. Et puis après, à cette époque-là, on faisait des salons collectivement. On faisait le salon de la rando à Paris. On faisait le salon des vacances à Bruxelles, d'où plein de clientèles belges. Le salon vert à Liège. On faisait des salons à droite à gauche, quoi, pour continuer comme ça. Puisqu'à l'époque, ils n'avaient même pas Internet, les gens. Vous vous rendez compte? Ils n'avaient même pas de téléphone portable. Comment ils pouvaient vivre?
C'est ça.
On se demande comment. Ils étaient dans des cavernes. C'est pas possible, quoi.
C'est un mensonge.
Ils n'avaient même pas Facebook. Vous imaginez un peu, même pas Facebook. Mark Zuckerberg était peut-être même pas né. C'est terrible. C'est terrible. Monsieur Zuckerberg, si vous m'entendez, heureusement que vous avez amené la lumière. Merci, monsieur Zuckerberg. Et ensuite, ben voilà, on a continué. Et puis les ânes, ben ça fait maintenant, ben depuis ces années-là, quoi. Première rando, 77-78. Puis ben, ça continue depuis des années. Aux plus grandes époques, on a eu jusqu'à 44 ânes. Maintenant, il m'en reste 25. Et puis maintenant, cette année, je suis en train tranquillement de passer la main à deux de mes fils. Le plus jeune qui va reprendre le troupeau et un peu les terres. Et puis le plus âgé qui va reprendre les randos. Voilà. Donc on en est là. Donc les randos, on peut dire deux mots hein, sur les randos. Donc les gens partent seuls, sans accompagnateur, pour d'accord. Des périodes qui vont de 4 à 7 jours ou plus. Soit ils partent seuls en emmenant leur tente et ils bivouaquent. Soit on a des circuits tout prévus, avec tous les soirs un gîte, une chambre d'hôte ou un petit hôtel de campagne dans lesquels on a réservé pour eux le repas du soir, la nuit, le petit déjeuner, un pique-nique à emporter, à côté desquels on a monté un parc pour mettre les ânes et on laisse du miam-miam pour les ânes, du foin, du granulé s'il y a lieu. Voilà la formule de base.
Donc puis, tout est prévu.
Tout est prévu, voilà. Les gens peuvent partir, les mains in the pocket et puis c'est bon. Il se débrouille comme ça.
Ah, ça fait du bien une semaine pour décrocher.
Carrément. C'est pas que pour les marcheurs.
Non, non, parce qu'il y a des circuits plus faciles que d'autres. Après, il y a des circuits. On a un circuit tout Caroux où là, tu as tous les jours des dénivelés qui naviguent entre 500 et 750 mètres. Donc là, il faut des gens qui savent un peu crapahuter, sinon ils sont séchés.
Mais... Et les hommes sont battés, ils portent
oui,
du matériel.
Ils sont battés, ils portent. On leur donne le bas plus des sacs spéciaux qu'on met dessus pour mettre leur bagage. Ils portent en moyenne 35-40 kilos. Donc un âne, ça va pour 2-3 personnes, okay. À peu près, tu vois. Mm-hmm. Ils portent tout. Ils peuvent porter aussi des jeunes enfants. Les enfants jusqu'à, on va dire...
30 ans.
Si... ah non, c'était Tintin, 77 ans.
C'est plus 5 kilos, non?
Bah, ouais, les gamins jusqu'à 7-8 ans, tu vois, ouais. Voilà. Donc, et après, quand ils sont plus âgés, en fait, leur plaisir, c'est de mener les ânes.
Ouais.
Voilà, de faire les meneurs d'ânes. Donc on a essentiellement une clientèle de famille avec des enfants. On a aussi une clientèle de grands-parents avec les petits-enfants, de plus en plus. Puis maintenant, comme ça fait plein d'années qu'on fait ça, et que j'ai dû voir depuis le début passer facilement 7000 personnes, et ben du coup, maintenant, on a des gens qui viennent et que j'avais eu, ils étaient enfants, et ils reviennent maintenant avec leurs propres enfants.
D'accord.
Ah, c'est ouais. Chouette ça.
Voilà. Et ils amènent leur espèce de livret de vacances où on se voit tous comme ça, on a la larme à l'œil. Voilà. Ils ont le culot de me dire t'as pas changé, je dis je vous crois pas. Non, maintenant ils osent plus. Les gens qui n'aiment pas, les gens autoritaires détestent les ânes. Tu ne vois jamais un dictateur juché sur un âne. Tu ne vois pas Hitler Napoléon ou Mussolini juché sur un âne. Qui est juché sur un âne? Jésus-Christ rentrant dans Jérusalem, et en plus, même pas sur un âne, sur une ânesse, le réprouvé des réprouvés. Hein, non, ce sont l'âne, la femelle de l'âne. Mais t'imagines un peu.
Cervantes, il n'était pas sur un âne.
Ah si, Don Quichotte est sur un cheval, mais sans Soupensa, lui, est sur un âne. Mais là, c'est juste
c'est normal, le
symbole d'aristocratie dominante par rapport à la plèbe qui est juchée, elle, sur un âne. Et le mépris général, l'âne, dans toutes les histoires comme ça, l'âne est toujours le méprisé, le réprouvé, etc. Dans les animaux malades de la peste, c'est lui. Et l'on crie « Haro » sur le baudet, « Je t'en dis de ce près la largeur de ma langue ».
Et pourtant.
Ouais. Pourtant, quelle bête merveilleuse, intelligente, subtile, attachante. C'est une merveille que l'âne.
Qui parle de mourir et pourquoi cette crainte qui vous fait croire enfin que je vous frapperai? En passant par le bois, j'entendis votre plainte et mon cœur s'en émut, car à vous dire vrai, je venais simplement, vous sachant bien malade, proposer mes services à vos derniers instants, éloigner si je puis les ultimes brimades en les prenant sur moi, comme je fis souvent. Sire, souffrez aussi que je me réjouisse de vous trouver ce jour tellement affaibli que je vous puisse enfin, sans craindre vos sévices, ouvrir un peu mon cœur et parler en ami. Vous m'avez quelquefois malmené, je l'avoue, mais ne l'avais-je point cherché, tant il est vrai que trop d'humilité à la longue nous voue au rôle de victime, et je ne m'en plaindrai. Je sais qu'on fait de moi un être ridicule, je n'ai rien d'un guerrier n'étant pas belliqueux, mais mon courage à moi, c'est que je ne recule jamais, je suis têtu de l'oreille à la queue. Certes, on n'apprécie pas ma voix dans les chorales, on peut ne pas aimer mon pelage grison, chatouiller du bâton mon épine dorsale, contester ma douceur autant que ma raison. Je ne suis pas venu faire un panégyrique, mes pauvres qualités n'en demandent pas tant. À vos yeux, je le pense, il est assez inique que vous dussiez mourir et que je sois vivant. Le fabuliste a pu, je n'en ai point de honte, vous donner le beau rôle à mes tristes dépens. Je dois dire pourtant, car j'en ai fait le compte, que mon nom sous sa plume est venu plus souvent.
On serait content d'avoir tous des bonnets d'âne.
Voilà, alors un de mes collègues disait, on mettait le bonnet d'âne aux enfants pour qu'ils s'imprègnent un peu de la sagesse de l'âne.
Ah, c'est pas comme ça que c'était
vécu. C'est une autre connotation.
C'est une autre manière de voir. Ça va aller bien.
Oui, ouais, effectivement, bien. Dans ce cas-là, oui.
Tu m'étonnes.
Globalement, ça va pas plaire aux gens qui sont cavaliers, etc. Mais un âne est nettement plus intelligent qu'un cheval. Le cheval a d'autres qualités, plus beau, plus etc. Mais il est moins intelligent que l'âne.
Après, on peut partir sur la définition de l'intelligence.
Alors, moi, j'en ai une petite preuve. La petite preuve est que, par exemple, un âne, si tu le mets dans un parc dans lequel il n'y a pas de courant, en l'espace de moins de quelques heures, il a compris qu'il n'y en avait pas et il est sorti. Il va de l'autre côté.
Ah, oui.
Un cheval, tu peux le laisser dans le parc, s'il a pris le courant une fois, même sans courant, il peut rester des jours et des jours sans sortir. Il ne va même pas aller tester.
Moi, j'ai vu un âne ouvrir par la poignée en plastique avec les dents à tous ses copains.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
Vraiment. Ouais, on se disait, il y a quelqu'un qui vient nous ouvrir le parc des ânes. C'est quoi, pourquoi c'est on lui. Est en montagne en plus, c'était un peu loin de tout. On ne comprenait pas. Et en fait, on s'est rendu compte, en se planquant et en espérant trouver le salopard qui venait nous voir, qu'en fait, l'âne, le noir, venait...
Les noirs, toujours les noirs, comme par hasard.
Forcément.
Comme par hasard.
Le petit malin. En tout cas, venez et attrapez avec ses dents la poignée en plastique. Il y a quand même un petit crochet qui est dans anneau. Faut le...
C'est un peu dur.
Et clac, il enlevait le truc, mais avec une dextérité folle, posé par terre et tout le monde le sortait.
C'est vrai qu'un âne ne peut pas vivre seul.
Ils n'aiment pas. Ils sont, ils sont comme
très
nous.
Malheureux.
Oui, vraiment. Voilà. Il faut quelqu'un. Alors, ça peut être un autre âne, c'est l'idéal, mais ça peut être une chèvre, un chien, quelqu'un.
Un canard.
Peut-être même un canard. Là, aujourd'hui, du coup, le lieu que j'ai au Mas de Riolz, comme il y a une grande salle, régulièrement, on fait des fêtes, on ouvre, on fait des scènes ouvertes, on fait un tas de trucs, parce que ça me paraît aller de soi. Ça me paraît être le justement le sel de la vie. C'est le sel de la vie, c'est de voir des gens, la rencontre, qu'il se passe des trucs. Si tu es dans ton coin, à regarder la télé, tu vas finir comme un orang-outan déprimé. C'est terrible.
Enfermé dans un zoo, oui.
C'est ça, enfermé dans un zoo, et pas dans sa jungle natale. Donc, non. C'est... Donc, oui, la vie est un miracle, c'est une merveille tous les jours. On ne le dira jamais assez.
C'est bien vrai.
Voilà. Tu te lèves, t'es en ville, le soleil se lève, t'es sur la route, tu vois des fleurs, des oiseaux, des trucs, des gens qui passent, c'est une merveille absolue.
Et la différence aussi.
Et la différence. Oui, oui, complètement. Si tout le monde est pareil, quelle tristesse.
Il y a Sartre aussi dans Les Mouches notamment, où il explique que les dieux étaient extrêmement jaloux, les dieux grecs étaient extrêmement jaloux des humains, parce que justement, nous étions mortels.
Voilà.
Et qu'eux, ils s'ennuyaient, ils s'emmerdaient terriblement sur le mont Olympe. Donc oui, est-ce que, comme tu disais, Julien, est-ce que c'est pas pour nous rassurer? Peut-être. Mais nous rassurer de quoi? Du fait que nous sommes périssables?
Que toutes les bonnes choses aient une fin. Et la vie, c'est un beau parcours, donc c'est de plus voir son prochain, de plus voir sa descendance, voir ses amis. Ouais, c'est quelque chose qui doit être dur. Quand tu es sur ton lit de mort, tu te dis pas, bon, si, tu dois te dire, ouais, j'ai bien vécu tout ça, mais t'as des regrets des fois de partir. Qui ne regrette pas de partir?
Je sais pas si tout le monde regrette de partir, honnêtement.
Peut-être, c'est vrai qu'ils regrettent, mais...
On attaque, disons, on passe de la vie à la mort.
Ah oui,
il n'y a pas de transition.
Non, mais c'est peut-être comme un manège. Si on attrape le pompon, on peut refaire un tour, peut-être.
Ben oui.
Ah oui. Ça, c'est une croyance.
Moi, je signe demain.
Mais c'est vrai, si t'es immortel, tu profites pas de la même façon.
On s'ennuierait si on était immortel.
Je sais pas.
Mais oui.
Ah, si.
Mais immortel ne veut pas dire éternel. Tu peux traverser la rue et te faire écraser. Et...
C'est quoi, tu vois, c'est quoi ta différence entre immortel et éternel?
Immortel, pour moi, c'est une dimension où la vieillesse ne s'exprime pas. Et on demeure comme ça, de manière immortelle. C'est-à-dire qu'on continue.
Tu veux dire l'éternelle vivre, jeunesse?
Une éternelle jeunesse, par exemple.
Moi, ça m'ennuierait terriblement, une éternelle jeunesse.
Oui.
Non?
Bah oui.
Par exemple, plus j'avance, plus...
Plus tu te sens bien.
Ouais, exactement. Oui,
il
cool,
y a peut-être un moment où il y a un petit déclin où on se dit, finalement, c'était pas mal quand même, quand je pouvais bien gambader, que je pouvais bien... Il y a des gens qui souffrent de la vieillesse, de dire, il y a plein de choses que je suis plus capable de faire.
Moi, j'ai vécu ça avant tout le monde, donc c'est pas mal.
C'est vrai.
Je suis déjà tout cassé, je suis déjà bien abîmé.
Qu'est-ce qui t'est arrivé?
J'ai eu des accidents, j'ai eu 3 accidents.
De quoi?
De parapente.
Oh merde.
Donc je suis un miraculé, moi.
Ah oui.
T'apprécies d'autant plus.
T'as pris,
Quand même.
Ouais.
Tu refais un tour de manège.
Par contre, physiquement, je suis comme un mec de. On parlait de Serge, de 85 balais.
T'en chies comme Serge.
Peut-être des fois même
plus que lui.
Plus que lui,
parce que lui, il est pas trop cassé.
Donc ça fait voir les choses autrement aussi.
Et t'as eu quoi, cassé la jambe, le bassin?
Juste celui qui parle, là, c'est Olivier, pour dire.
Merde. Les deux pieds et une grande partie du dos.
Oh merde.
Donc mais en même temps, tu vois, 3 fois de 30 mètres. Il y en a qui tombent d'un escabeau, qui finissent en fauteuil,
qui meurent.
Je disais miraculé, ou qui meurent, voilà.
Ou qui s'arrêtent à la première.
Ouais, alors ça c'est encore un autre débat, mais j'ai fini par m'arrêter,
Tu faisais ça où, par rapport?
J'ai commencé dans les Alpes, j'ai vécu 10 ans dans les Alpes, dans le massif de la Chartreuse. Mmh. Donc, j'ai commencé là-bas et puis j'en ai fait un peu partout. Quoi. Ah, ouais. C'était après un fil rouge pour les voyages. Quoi.
Ah, ouais, ouais, ouais.
C'était ouais, une raison de voyager. Quoi.
Ah, oui.
Et ça devait être un plaisir intense quand même pour y retourner, malgré le...
Une drogue dure.
Et ouais.
Une drogue dure.
Et maintenant, tu fais quoi?
Pour mes loisirs ou dans la vie en général? Parce que au niveau loisirs, tout m'a paru assez fade après le parapente, justement. Ah ouais. Tu vois, ce que tu disais, c'est quand même quelque chose de... Mais j'arrive à trouver du plaisir en VTT, par exemple. J'arrive encore à faire ça. Sinon, le truc, c'est que quand je volais, je ne vivais que pour ça. Entre-temps, le fait d'avoir arrêté, finalement, je me suis rendu compte que j'allais passer à côté de plein de trucs, notamment fonder une famille, élever des enfants, poser, prendre le temps... ouais, vivre d'autres choses, d'autres aventures humaines, d'autres...
Donc finalement, on pourrait dire quand il y a une porte qui se ferme à un moment donné, il y en a peut-être... On regarde les autres, peut-être un peu plus.
Bah, mais
elles sont là, mais
en fait, il n'y a rien qui arrive pour rien, quoi.
Voilà. C'est ça.
Moi, je pensais que les autres n'avaient rien compris à la vie. Hein. Mais, ils s'emmerdent là, dans leur voiture, leur machin, leur petite vie, leur travail, leur élever des gosses, et nanana... Donc que moi je vole, en fait, bon, ouais, c'est bien de voler, hein, que quoi.
Mes chers parents, je que...
Non, mais je me réveillais en pensant à ça, je me couchais en pensant à ça, j'avais des amis qui faisaient ça, je discutais que de ça.
C'est une passion.
Ouais, ouais. Mmh. Ouais, ouais, quand je disais drogue dure, ouais. C'est un truc...
Puis l'adrénaline doit être tellement forte.
Mais c'est, le truc, c'est que c'est un sport qui est vraiment complet. Mmh. Dans le sens où t'as ce truc d'adrénaline, t'as le côté contemplatif. Voilà, c'est une façon de, quand tu voyages et que tu découvres un endroit, le voir d'en haut, c'est de suite autre chose. Ça peut être le sport de glisse très, très, très vif et tu peux faire de l'acrobatie, tu peux faire tellement de choses. Et c'est aussi un lien social, tu vois. Dans certains pays, quand tu arrives avec un parapente, on n'a jamais vu ça.
Ça crée du contact.
Tu rencontres des gens beaucoup plus facilement.
Passe-moi le sel, Thierry.
Lequel? Il y a du saucisson, là, excuse-moi.
Est-ce que quelqu'un va en
prendre? Oh bah.
On va tout goûter.
Je vais demander un paralytique, si ça marche. J'ai déjà fait le coup de l'aveugle, j'ai du sourd.
Ah ouais, tu vas tout bien.
Thank you.
Vous écoutez Onda País, la radio des Hauts-Cantons.
C'est maintenant le parapente, tu as tiré un trait.
Et ouais. Mmh. Ouais, ouais, ça fait depuis 2012 que j'ai.
Que j'ai arrêté de.
Mmh. Alors, ça a été très très dur au début, comme je disais tout à l'heure. Tous les autres sports me paraissaient fades. Santé. Mais ça me manque plus puisque, comme je vous disais, je me suis rendu compte que si m'étaient pas arrivées ces choses-là et que j'avais continué dans ce sens, finalement, je n'aurais vécu que ça. Ce qui était une super vie, hein, mais voilà, tout l'amour que j'ai pour ma femme et mes enfants, ça a été du gâchis quand même de pas le vivre. Entre autres, hein, pas que. Pas que. Donc oui, ceci dit, je rêve encore que je vole. Mais je rêvais que je volais déjà gamin, quoi, avant de faire du parapente. Donc avoir ce rêve-là, je sais pas ce que ça veut dire.
C'est un rêve de l'humanité. Hein.
Ouais. Un rêve de
l'humanité.
Bah, de voler depuis Icare, bah, on en Icare, parle depuis voilà, des années.
C'est ça. Mais Icare, c'est de voler les ailes.
Icare, parce qu'il veut voler trop près du soleil. C'est tout. Voilà. Il serait resté un peu plus bas. Ça
il aurait été un peu plus humble.
Exactement.
Il aurait atteint l'antre du Minotaure.
Exactement. Il aurait atteint son objectif. Voilà. La cire a fait, le soleil a fait fondre la cire qui lui tenait
ses plumes.
Mais l'objectif, c'était pas de s'échapper du labyrinthe.
Peut-être de trouver moyen de. Vu du ciel, tu vois le labyrinthe.
C'est vrai.
Trouver la
solution. J'ai plus haut. En tout cas, c'est bien bon. Là, on a changé de vin, ceci dit. On est passé après le Mas des Chimères.
Ah, c'est aussi c'est un vin qui est excellent. C'est un white label. L'étiquette est toute blanche.
100% Carignan.
100% Carignan.
Ah, c'est pas mal ça.
Tu m'aimes bien. C'est un Charlotte et Clément de Béarn. Et 2020.
Ça vient d'où?
Alors j'essaie de regarder. 100% Carignan planté par grand-maman il y a 80 ans. 100%
ah, punaise, bio. C'est vieux Carignan ça.
100% levure indigène. Élevage 100% demi-mulot. Je ne
me rappelle d'où il vient.
Et il vient de. Ben d'à côté.
34725.
Ah ben 34700 c'est l'Odève. Donc 34725 ça doit être autour de l'Odève.
Saint-Étienne et d'Estrichou.
Ah non, tu crois ça? Non, c'est un 34600.
Saint-Étienne de Gourgas, pardon.
Ah, de Gourgas peut-être, parce que d'Estrichou c'est un 34600 côté.
Moi je dirais que c'est entre l'Odève et Gignac, mais je sais plus où exactement. Mais... C'est un vin que j'ai découvert au Mas de Riri. Au bar du Sayagou.
C'est quoi le Mas de Riri?
Sacrée adresse.
Ah, une belle adresse. Ah,
c'est quoi? C'est quoi le Mas de Riri?
Ils ont réouvert la semaine dernière.
Ouais. Le Mas de Riri, c'est un camping, hôtel, bar et resto.
Une institution locale.
Exactement. Au bord du lac, à côté du village de Selles.
Et ça ouvre quand? Je suis en train de vous faire la pub.
Ça vient d'ouvrir. Et c'est ouvert jusqu'au mois de... Jusque fin septembre.
Fin septembre.
Minimum.
Comme moi, je suis venu dans la région il y a très très longtemps. J'ai acheté ma maison en 73. Et ces étés-là, on allait manger au Mas de Riri. À l'époque, j'habitais encore Paris. On venait que l'été. C'était encore Riri. On allait manger les écrevisses chez Riri. Et à l'époque, sa fille, Joël, elle était ado. Il disait, non, tu ne sortiras pas. Il avait déjà un caractère terrible. Je t'emmerde et je sors quand même. Qu'est-ce qu'on se marrait à les voir. Et maintenant, elle est maire du village. C'est quand même formidable. C'est quand même formidable.
34 720, c'est court, mais là c'est 725.
Ah, c'est pas court.
Donc je sais pas ce que c'est.
Eh oui.
Eh ben c'est très bon en tout cas.
En tout cas, c'est un super vin. Ouais.
Ouais, il est vraiment bon.
Tu l'as découvert, chérie?
Ouais. Super. Ah ouais. Bon, ma chérie travaille.
Ta chérie travaille au Mas de Riri.
J'ai vécu 10 ans au Mas de Riri.
Si là on va manger au Mas de Riri, c'est ta chérie qui sert?
Ou qui est en cuisine? Non, vous pourrez être servi par ma nièce. Hein. Qui travaille là-bas aussi.
Punaise.
Mais ma chérie vous y accueille le matin. Elle fait les petits déj et tout l'accueil du camping.
D'accord.
Un peu de service au bar.
Ouais.
Elle bosse jusqu'à début d'après-midi. Elle fait le matin jusqu'à. Elle fait une partie. Là, elle n'a pas encore commencé.
Oui.
Parce qu'on essaye de garder du temps pour nos enfants, parce que la vie de saisonnier,
je suis saisonnier. C'est maintenant le parapente, tu as tiré un trait.
Et ouais, 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 ça fait
depuis 2012 que j'ai
arrêté. C'était très dur au début.
Vous avez des douleurs, on ne pouvait pas en avoir.
Nous avons les vacances, on paraissait fade.
Pendant les vacances.
Il y a quoi, des grand-mères qui
sont
Ou ça en masse de rire?
Non,
ça me manque quand même, puisque, comme je vous disais, je me suis rendu compte que si. S'il m'était pas arrivé ces choses-là,
ouais, alors ils sont de plus
et j'avais continué mais... dans ce sens, oui. Finalement, je n'aurais vécu ouais, que ça. Ils ont eu une super vie, hein, mais
un petit enfant à masse de Riri.
Voilà, tout l'amour que j'ai pour la femme et mes enfants. Ils avaient deux
Santé du gâchis quand même, de ne pas le vivre.
Qui étaient les filles de mon ami.
Entre autres, hein, pas que.
D'accord. Et donc, oui, ceci dit, je rêve encore que je vole. Mais je rêvais que je volais déjà gamin, quoi, avant de faire du parapente.
Il y en a dedans.
Oui, il y en a plein.
Et du coup, ouais, voilà. Ils passaient leur été entre nous et eux.
C'est une enfance paradisiaque.
Ouais. Ah, une enfance autour à la douce.
Ce que j'allais dire, l'enfance au bord du lac, elle est quand même assez douce.
C'est presque Libres Enfants de Sommery, ça.
Ouais. On n'est pas loin. Ouais.
C'est pas mal. Hein. Au début, quand je suis venu ici, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait monter une école parallèle. Ah. Et puis, on a vite renoncé.
Ah, c'est du boulot.
C'est déjà, c'est déjà dur avec les
siens. Ah oui, c'est déjà dur.
Oui, toi, Julien, tu fréquentes les plus jeunes régulièrement, oui, pour professionnellement parlant?
Du collège au lycée, oui. Ouais. Oui, c'est... Les jeunes sont formidables et sont merveilleux.
Tu dis ça parce que ça passe à la radio?
Pas du tout. parce que la plupart du temps, le portrait du jeune est souvent délabré, négatif.
C'est vrai.
Ouais, ils sont sur TikTok, ils sont sur Facebook, ils sont même plus sur Facebook.
J'ai rendu hommage à Monsieur Tchoukou.
C'est vrai.
Mais c'est souvent le mal, quoi. TikTok. Alors que c'est juste qu'ils prennent d'autres canaux. C'est-à-dire que quand les vieux ont commencé à venir sur Facebook, mais il a bien fallu que cette
jeunesse
trouve quelque chose, s'approprie un support. Et donc le réseau social, ça a été Instagram et TikTok. Et oui, il y a beaucoup de bêtises sur ces réseaux, mais comme il y a beaucoup de bêtises sur TF1 ou sur...
Bon, les jeunes, c'est pas que ça. Que sur...
Non, mais il y a beaucoup ce phénomène de réseaux sociaux qui rentrent aussi dans l'école, qui peut causer des problèmes de harcèlement.
Ce sont un peu des rites d'appartenance.
Oui, oui, parce qu'avant, il n'y avait pas la Game Boy, pas plus les Pokémon, la Game Boy, les Tamagotchi, puis avant, c'était la guerre des boutons.
C'était d'autres rites d'appartenance. Mais le truc, c'est que c'est super mal vu. En fait, il y a des jeunes qui arrivent à être influenceurs, à gagner beaucoup d'argent. Il y a certaines générations...
En vendant l'eau de leur bain, par exemple.
Par exemple, en vendant des photos de leurs pieds.
Leur paix aussi. Il y a une femme, une jeune femme qui a vendu ses paix pendant longtemps jusque.
Mais elle est vendée. Je croyais que tu disais plaies.
Non, paix.
C'est un moment formidable.
Bon, c'est merveilleux, sauf que son gastro lui a dit qu'elle risquait, parce qu'elle mangeait beaucoup de. Mais c'est véridique, hein, c'est pas une blague. Elle mangeait beaucoup de flageolets pour
arriver à flatuler.
Et en fait, elle s'en est rendue malade au point qu'elle a dû arrêter son business, mais elle a eu le temps de se faire largement de quoi. Je sais pas du tout, c'est des couilles, mais là, un anus en or, pour le coup. Ouais. Voilà, Olivier, t'es parti de là.
Voilà. Je suis tombé sur anus en or.
Non, parce qu'on l'avait dit avec le toque à Olivier, faut pas dire des gros mots, etc.
Mais c'était pas un gros mot, anus.
Ordure, pardon.
Je vais te faire le service.
Oh, merci, là, j'allais
passer. Du village, c'est quand même formidable. C'est quand même
formidable. 34-720, c'est court, mais là, c'est 725.
Ah, c'est pas court.
Donc, je sais pas ce que c'est.
Ah oui, ah oui.
Eh bien, c'est très bon, en tout cas.
En tout cas, c'est un super goûter. Vin.
Ouais, il est vraiment bon.
Tu l'as découvert, chérie?
Ouais.
Super.
Ma chérie travaille.
Et chérie travaille au Mas de Riri.
J'ai vécu 10 ans au Mas de Riri.
Si là, on va manger au Mas de Riri, c'est ta chérie qui sert?
Ou qui est en cuisine? Non, vous pourrez être servi par ma nièce, hein, qui travaille là-bas aussi.
Punaise.
Mais ma chérie vous y accueille le matin. Elle fait les petits-déj et tout l'accueil du... camping, petit service au bar. Elle bosse jusqu'à début d'après-midi, le matin jusqu'à. Elle fait une partie. Là, elle n'a pas encore commencé.
Oui.
Parce qu'on essaye de garder du temps pour nos enfants, parce que là, de saisonnier, je suis saisonnier aussi.
Oui, c'est rude.
Et du coup, on essaye de garder du temps le plus possible pour nos enfants jusqu'aux vacances de Pâques.
Oui, oui, vous
allez. Après, on les sacrifie.
Oh, sacrifie. C'est autre chose, c'est notre vie.
Ça nous est arrivé de les louer à des gens qui ne pouvaient pas en avoir.
Pour les vacances, non?
Voilà. Pendant les vacances.
Et il y a quoi, des grands-mères qui viennent ou des...
Ou ça au masse de riri?
Non,
pour un date.
Pour s'occuper des enfants.
Ouais. Ouais, alors ils sont de plus en plus grands, mais...
Oui, maintenant ça va.
Mais ouais, ils ont une bonne petite enfance au masse de riri. Avec... ils avaient deux nounous. Mmh. Qui étaient les filles de mon ami d'enfance avec qui je bosse.
C'est génial.
Et donc, étaient ados, mais. Des ados très très fiables. Très très chouettes.
Il y en a.
Et donc, j'entendais des adultes dire.
Oui, mais moi, j'étais d'une génération qui disait il ne faut pas perdre sa vie à la gagner. C'était pas mal, mais toi tu avais des belles bourses. Là les jeunes ils ont plus de bourses, on leur coupe les APL.
Non mais toi des belles bourses,
c'est ça la différence. Vite flatteur. Je ne parlais pas des mêmes bourses, mais bon.
C'est tu vois, ça. Moi, je me rappelle que mon grand-père il disait qu'on était pourri gâtés et que machin, et maintenant j'entends des mecs de mon âge dire que les gamins sont pourri gâtés.
À Noël on avait une orange. Là, tu as eu 20 cadeaux. 20 un cadeaux. De moins que l'année dernière.
Tu te rends compte, Charles-Edouard? 20 cadeaux. Tu ne connais pas ta chance.
Par contre, factuellement, les jeunes sont bien moins lotis, malheureusement, à cause de ces appels qui ont baissé, qui ont été sucrés. Alors que bon, l'ISF a été supprimé.
J'entendais tout à l'heure, en venant ici à la radio, que la plus grosse fortune du monde était monsieur Bernard Arnault.
Oui.
Fortune numéro un. Et la deuxième, c'était une femme qui s'appelle Madame
Arnault.
Madame Bettencourt, voilà, deuxième fortune. En tout cas, première fortune féminine du monde.
C'est pas Musk le second?
Non, oui, mais la première fortune féminine.
Ah, féminine.
Non, Musk,
d'accord.
Non, Musk est derrière Arnault.
Donc on fait qu'il a fait des conneries. C'est
voilà,
pour
on
ça.
Fait tout un ramatata avec Musk, avec la Tesla,
Monsieur et tout.
Et bien, notre bon Arnault national est quand même le premier. Si on prenait à Monsieur Bernard Arnault, allez, un centième de sa fortune, le rendrions-nous indigent pour autant? Finirait-il sur les trottoirs? Ses enfants n'auraient-ils pas à manger? Et ses veuves seraient-elles éplorées? Je ne crois pas. Et peut-être qu'avec ce 1 centième, on pourrait faire le bonheur de milliers de personnes dans notre beau pays, voire de centaines de milliers, voire même de millions de personnes dans notre beau pays. Donc, qu'attend-on ?
On va te la faire à la française. On va te chatouiller les chines. C'est le retour de la Marseillaise. C'est le son de la guillotine. Ça te coupe la chic, c'est chic. Ça ira, l'électro on le prendra. On fait tomber les têtes, on kick, on cut le beat à la serre. C'est le son qui te scie, c'est le son qui t'a scié. Les aristos du son, French touch, finissent en haut du panier. Ça te la coupe, cette track à la tête des monarques dans le sac. Scalper les perruques au scratch, envoyer les poudrées au catch. Cachot, les deux masques de fer, les potards despotiques reposent en enfer. Je mets le veto sur l'électro, la zig d'ascenseur à l'échafaud. Quick, quick, ça te coupe la chic, c'est chic. Quick, quick, ça débite, ça débite, ça débite, ça débite. Quick, quick, ça te coupe la chic, c'est chic. Quick, quick, ça cut, ça décapite le beat. Face à la guillotine, on va te chatouiller les chines. T'as trop tiré sur la corde avec tes sons de l'ordre. Tu n'entends net la clavinette qui se pavane aux oubliettes et qui se la pète avec la tête de Marie-Antoinette en boule à facettes. Hush, hush, hush la couenne, danse la carmagnole. Pom, pom, pompadour, people. Froid, froid, t'avais froid dans ton bain marin. Ton do majeur, ça fait froid, tu vas te sentir dans un tiers état. Quick, quick, ça coupe la chic, c'est chic. Quick, quick, ça débite, ça débite, ça débite, ça débite. Quick. Ça te coupe la chic, c'est chic. Quick, quick. Ça te cut, ça décapite le beat. Quick, quick. Quick, quick. À nos enfants.
vent de la batterie. Le jour des tsars est terminé, contre nous de la tyrannie. Les standards semblant élevés, marchons, marchons, formez vos postillons. Qu'un son impur et rouge abreuve nos sillons. 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 Qu'un son impur et rouge abreuve nos sillons.
Tu écoutes On Va Païs, la radio des Hauts-Cantons.
Moi, ce que je trouve, c'est que l'étau se resserre.
Ouais.
Oui.
C'est-à-dire que la liberté se rétrécit comme peau de chagrin.
C'est ça.
Bientôt, si tu veux, dans notre pays, c'est... j'avais un copain suisse qui disait « En Suisse, tout ce qui n'est pas interdit, c'est obligatoire. » Eh bien, on arrive presque à la même chose dans notre beau pays où il y a... Il n'y a pratiquement plus de trous de souris. Il y en a encore un petit peu, mais de moins en moins dans lesquels se glisser sans tomber sous les oukases de tous les imperméables mastiques du pays. Les imperméables mastiques, moi, c'est plus administratif. Et voilà, qui t'oblige ou qui t'interdise.
Après, ils ont une réalité qui était peut-être effectivement différente de celle qu'on avait en termes de discours, c'est qu'il y a une réalité aujourd'hui environnementale. Où ils entendent quand même la plupart du temps, toute la journée, que c'est fini. Et moi, je trouve ça extrêmement dur. Pour, c'est quelque chose qui m'agace.
C'est impensable.
J'ai toujours appris à mon fils, n'écoute, fais attention à l'environnement, évidemment. Fais attention à ton mode de consommation. Deviens un consommateur actif, non passif. Choisis ce que tu consommes. Mais attention à beaucoup de discours ambiants qui sont durs pour des jeunes, quand même.
Mais ce qui est horrible, c'est que certains qui le véhiculent, ce sont ceux-là même qui se frottent les mains du climat. Donc c'est encore plus ignoble de.
Oui.
Enfin, ignoble. De réception. C'est la merde, et puis vous débrouillerez avec ce monde-là.
Ça va, ouais, quand même.
Débrouillez-vous.
Faisons peur au peuple.
Faisons peur, c'est ça.
Un peuple qui a peur, c'est formidable, on le manipule comme on veut. On en fait ce qu'on en veut. On l'a vu à plusieurs reprises, c'est très simple.
Ça va être chiant un peu cette émission parce qu'on est un peu tous d'accord quand même. C'est bien qu'il y ait. Je
sais
pas. Ah non.
L'entre-soi.
Parlez pas de politique, parlons un peu de divertissement. Vous avez lu le dernier Playboy? Moi je suis abonné. Alors, que,
t'as raison, c'est bien, c'est une bonne
idée. Chiapas. Chiapas vu.
Chiapas.
En plus, la chiapa en italien c'est la fesse. Mais bon,
c'est la fesse, la chiapa.
Mais c'est jusqu'où iront-ils, jusqu'où irons-nous? Parce que c'est de voir avec tout ce qui se passe, tu dis, mais ils ne peuvent pas faire. Mais c'est quand ils... Et là, tu dis, mais là, on est au bord, ils ne peuvent pas faire pire. Et t'as Macron, il dit, si je fais une interview, j'ai Pif Gadget. Mais non, c'est 1er avril.
J'ai vraiment cru que
c'était vraiment une interview.
Oui, oui, moi aussi, j'ai cru que c'était un gag.
Mais c'était pas un gag.
Non, c'est pas un gag.
Mais bon, Pif Gadget a été racheté il y a des années. Pif Gadget a été racheté il y a des années par des personnes qui n'ont pas du tout le même esprit que celui du début. Ah,
qu'est-ce que tu renvoies maintenant? Qu'est-ce que tu renvoies quand même comme...
Oui, c'est plus maintenant, c'est un pote à Mickey.
Ah ouais, c'est un pote à la souris. Là. Et quand même, quand tu vois le truc, il fait l'interview, et puis l'autre, elle pose dans Playboy, tu dis, attends, mais moi, je suis gay, ouais, quoi, je suis gay, ouais, mais on s'en fout, quoi, mais il va dans Têtu, là.
Il va dans Têtu, ouais, le... Là. Je sais plus qui c'est.
C'est on le disait tout à l'heure. De...
Des affaires européennes.
Du travail.
Du SOPT.
Ou du travail.
Du travail.
Mais c'est tout, quoi, on en est là.
Mais pourquoi on médiatise?
Il faut relire d'abord Evan Egem sur la société du spectacle. Ils sont en plein dedans. C'est la société du spectacle qui continue une fois de plus.
Vous êtes bien sur Onda País, la radio des hauts cantons.
C'est plus fort que moi.
Vous êtes bien sur Onda País, la radio des hauts cantons. Vous êtes bien sur Onda País, la radio des hauts cantons.
Merci. Donc, et Julien, c'est un nouveau papa.
Et oui, tout récent, c'est pour ça que j'étais en retard tout à l'heure.
Oui, je trouve ça des excuses, hein. Je sais pas ce que fout ta femme.
La pauvre. Non, elle travaille, elle tire son lait sur son lieu de travail.
Ah oui, c'est tout récent alors.
Et ça fait 5 mois, donc si on n'avait pas de moyenne garde, on a dû trouver des solutions. Donc là, j'ai mon congé maternité.
Une
petite fille.
Comment elle s'appelle?
Jolene.
C'est joli.
C'est Jolene.
C'est Jolene.
C'est Jolene.
Et du coup, j'exerce mon congé paternité là pour m'occuper de ma fille.
Par contre, je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais tu ne devrais peut-être pas la laisser aller dans les manifestations avec ta fille.
Et c'est de la délation, ça. Elle a fait sa première manif.
Première manif, ouais.
À Bédarieux, où nous étions 1200 personnes.
Exactement.
C'est bien.
Historique.
C'est bien. 6000 personnes, c'est vrai.
Historique.
Je crois que vous êtes monté à 1600 à un moment donné.
Je crois que c'était la dernière.
Ça, c'est...
Ils sont retrouvés à la fin.
En tournant en rond.
Ils ont rencontré les premiers
écoutes. C'est ça.
Ça mobilise. Hein.
Et oui, ça mobilise. Il y a des jeunes aussi, il y a des lycées qui font grève. Oui, oui. Il y a des.
Sur une population sur le coin. De 6000 habitants. Quand même.
C'est beaucoup.
Ouais, c'est beaucoup.
Beaucoup. C'est beaucoup.
J'ai discuté hier avec un ami belge qui comprenait pas. Il me dit, mais attends, nous. Déjà
à 62 ans,
à 67 ans,
non,
c'est
dur. Et je comprends pas pourquoi vous battez là pour 2 ans. De toute façon, c'est normal. Il faut bien que le système est fait ainsi. Et vu qu'on vit plus, voilà le discours.
Comment
et du coup, je disais, tu sais, Dédé. quand les gilets jaunes, quand ça a commencé, à la base c'était le gasoil qui était passé à 1,50€, quoi. Et je dis, mais au final, là c'est les retraites, mais en fait, si les gens ils travaillaient et qu'ils pouvaient se loger décemment et manger décemment et tout, je suis sûr qu'ils n'y auraient pas pour 2 ans.
Et oui.
Et après là, il y a une colère quand même qui est. Au-delà des 2 ans et du système qui est, parce qu'on parle que des 2 ans, mais il y a aussi le fait que tu n'aies plus le choix. Si tu veux ta retraite, tu es obligé d'aller au bout, alors qu'avant tu pouvais en prendre qu'une partie en arrêtant avant, ça c'est plus possible. Mais bref, et en dehors de ça, la colère
elle a dépassé la question de la réforme.
Les gens ils ont la dalle, quoi.
C'est ça. Puis il y a une question, c'est vrai que quand on parle avec des personnes ailleurs en Europe, ils disent mais non, on part plus tard à la retraite, mais quand on regarde le nombre d'années de cotisation,
c'est du kiff.
C'est pas la même chose.
Oui, après il y a la façon dont c'est fait aussi. Je veux dire, 11,49,3, c'est énorme.
Ouais. Non, mais c'est ça.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dialogue
de cette équipe-là. Quoi.
Ah oui, il n'y a plus de dialogue.
Mais il n'y a pas que ça, si tu regardes le reste, c'est que c'est quand même voté par des sénateurs ou des députés qui, eux, ont des statuts de retraite qui sont bien spéciales et qui ne sont intouchables. C'est-à-dire qu'un sénateur qui fait un mandat de 5 ans, il a déjà une retraite de 1 400 €.
Il faut donc couper les nouilles au sécateur.
Attention, c'est un appel.
Une petite contrepèterie.
Non, mais on va faire un jeu. On va faire un jeu. Je joue contre toi. Et c'est moi qui mets toutes les règles.
Voilà,
c'est qui gagne.
C'est ça. Voilà. C'est qui je gagne, face tu perds.
Et puis au pire, si tu les gagnes, je changerai les règles.
Je changerai les règles.
Je peux changer les règles au fur et à mesure. En plus.
Si les règles ne me conviennent pas, je les change.
C'est ce qui a été fait. C'est formidable.
Après, ce qui est bon quand même, c'est quand même de voir qu'un peu de partout, les gens, ils sont pas comme ce qu'on veut faire nous faire croire en réalité. C'est les gens discutent entre eux.
Ce qui est déjà miraculeux, parce que quand tu vois Télé Bolloré et leur comparse, tu te dis, eux qui subissent cette intoxication tous les jours, en tout cas une bonne part de nos compatriotes, comment arrivent-ils à rester avec un tantinet de libre arbitre par rapport à ça? Ça paraît presque miraculeux.
Oui. Dis, voilà. Je suis pas sûr que ce soit les mêmes.
Non, c'est pas les mêmes.
Bah, quand même, 70%, même si, tu vois, pas ceux, forcément oui. que ceux qui vont voler, mais 70% des gens sont d'accord avec le fait que ça,
que c'est ça ne va pas.
Donc ça va pas.
Et parce qu'ils ont raté, ils ont raté le dialogue, la communication directe des syndicats, ils ont été mis de côté. Donc quand tu romps la communication comme ça, qu'est-ce que tu vas avoir derrière?
Ce qu'ils ont fait déjà avec les gilets jaunes.
Est-ce qu'ils ont fait déjà les gilets jaunes?
Moins de demandes de l'effet.
C'est ça.
Mais j'ai pas la comparaison avec les gilets jaunes, parce que je n'aime pas les gilets jaunes.
Mais tu dis raté, moi je suis pas sûre, je pense que c'est voulu. Je pense que c'est un choix de leur part, une vraie stratégie. Il me semble que c'est un vrai choix de leur part de...
Je pense qu'ils se plantent, parce que là, tout ce que ça fait, c'est dérouler le tapis rouge au FN. Et finalement...
C'est pas d'hier.
Oui, mais de faire le pompier pyromane en disant qu'ils vont sauver, à un moment donné, à force de jouer avec le feu, on se brûle.
Mais ils y croient encore.
Parce que ceci dit, Macron, il y a deux ans, il disait le contraire. Il disait que ça serait hypocrite de demander la retraite à 64 ans. C'est hypocrite, il n'y a pas de travail déjà pour les jeunes. Comment on peut demander aux personnes de travailler? Il disait ça.
Qu'est-ce qu'on reproche au FN, en fait?
Oh, rien.
Non, mais clairement, mettons des mots sur les...
Le fait de ne pas vouloir, par exemple... De ne vouloir, par exemple, qu'un certain type de syndicat, un peu clientéliste, si tu veux. Okay. Qui serait à la botte, justement, de...
Qu'est-ce qu'ils font, là, en ce moment? Qu'est-ce que l'abandon Macron, c'est quoi?
Même chose.
C'est la même chose. Non, mais évidemment.
Même chose, mais chaque fois...
Pour tout, on peut répondre à ça, pour tout. Alors, attention, je suis pas pro-FN.
Non, mais...
Je suis anti-l'abandon Macron. Et en fait, franchement, où est la différence? Voilà, ma question est
sur l'immigration, sur.
Mais c'est qu'il y en a qui ont le pouvoir, d'autres qui l'ont pas, quoi.
Sur les droits sociaux.
Tu veux parler des camps.
À Calais?
Oui, c'est pas mieux. Oui, mais au lieu qu'ils aillent à Calais.
Les réfugiés politiques aujourd'hui, ça se passe comment?
Non, mais je pense que certains seraient capables, quand tu as des charters qui traversent la Méditerranée, de couler. Charter en Méditerranée.
Il y aurait des gens qui meurent en Méditerranée.
Capables, non, mais carrément de les faire couler volontairement.
Qu'est-ce qui se passe, je suis d'accord avec toi.
Mais
c'est la même chose. C'est quoi la différence entre décider je vais le faire couler et je ne regarde pas.
En cas de maladie, ils auraient enfermé les gens chez eux.
Ça reste des.
Oui, non, mais de passer à l'acte.
Aujourd'hui,
on passe un cap.
Aujourd'hui,
la
bourgeoisie a joué une carte, la carte Macron.
On n'a pas envie de missile sur les charters de.
La bourgeoisie a toujours des cartes dans sa manche. La carte Le Pen est la suivante.
Ouais, bien sûr.
D'accord. C'est ça.
Comme c'était le cas en Allemagne dans les années 30, après avoir joué la carte avec Hindenburg, etc., ils avaient la carte Hitler.
On y est là.
Mais je pense que ça peut être pire.
Mais après, tu plantes. Oui, après, tu plantes. La carte échappe.
Ça peut être encore pire.
La carte
sur les droits, ça y est,
ils sont mis à l'abri.
Regarde ce qui vient de se passer. Mis à l'abri.
Parce que tous ceux-là n'ont jamais été poursuivis. Les Tinken, tous ceux qui ont produit le JKMB, ils sont toujours au commandement en Allemagne. Ils n'auront aucun problème.
Ils n'auront rien.
Pour moi, la Méditerranée, c'est un génocide organisé. Quand il y a des gens qui meurent en Méditerranée, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour les sauver.
Donc, je ne suis pas en train de défendre le FN, je suis le RN. Je suis juste en train de dire que extrême droite, c'est quoi là? On en est où maintenant, là, aujourd'hui, là, avec les gens qui nous gouvernent? C'est quoi la différence?
Elle est epsilonesque. Elle est due à des postures.
Ils détruisent absolument tout le service public.
Bah oui.
Intégralement.
C'est pas ça l'extrême droite.
Si, complètement. Ils ont commencé à jouer la carte.
Ça en fait partie, oui.
On y est.
Ils ont commencé à jouer la carte.
C'est un cheval de Troie, en fait.
Ils tapent sur les gens qui gueulent. Oui, ils interdisent, tu vois, la dame dont tu parlais, bam.
La manière dont la police se comporte, c'est exactement comme ça.
Mais la police devient une milice.
Complètement.
Devient européenne.
Il y en a plusieurs des milices parce que maintenant elles sont
appelées par secteur. Elle ferait pas mieux.
Et il y a la police européenne qui.
Qu'est-ce qu'une milice?
Elle ferait pas mieux.
Non, mais qu'est-ce qu'une milice?
Une milice, c'est un groupe armé qui est au service d'une catégorie propre donnée.
Oui, mais c'est local. Souvent privé.
Et non. Ben, on est presque au même cas.
C'est local. Pour la guerre,
bien sûr.
C'est local, là. Ouais.
Oui, avec mais y a pas, on n'a pas de milice privée en France.
Avec la, avec la police européenne qui arrive. Vous, je ne sais pas si vous avez lu les textes de loi sur ça, mais
c'est peut-être,
ça
oui.
fait un petit peu peur quand même. Ils ont juste droit sur tout. Ouais, on peut les attaquer sur rien. Et ils ont une indépendance même par rapport au chef de l'État de tous les pays européens.
C'est le FBI européen.
C'est pire que le FBI européen, parce qu'ils ont des grosses bottes noires.
Ah, c'est bien
pas
ça.
Pas des lunettes noires.
Des bottes, enfin des bottes. Ils vont pouvoir tourner dans les films sadomaso. Ça, c'est formidable.
Vive les masques.
J'espère qu'ils auront l'accent allemand, sinon ils ne sont pas crédibles.
Ah, oui. Non, mais... C'est pas rigolo, sinon.
Ouais, non.
Il y a moins de folklore.
Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, quand tu vois que notre président est capable de dire qu'il veut faire de l'écologie avec des méga-bassines, et que derrière, il use de son bras armé pour mettre au pas les gens, que ce soit dans les retraites ou pour les méga-bassines, oui, il y a une utilisation de la force de l'ordre qui
est antidémocratique. Pouvions-nous attendre autre chose? On savait d'où venait ce monsieur, au service de qui il était, dès le départ. Il ne s'en était pas fait mystère. Bah quel oui. était son emploi précédent
Rothschild.
Après avoir fait l'ENA, il a travaillé à la banque Rothschild. Il a ce qu'on appelle pantouflé immédiatement à la banque Rothschild. J'aime bien le terme. Pour moi, l'ENA étant une école de la République, supposer faire les gens qui vont diriger notre pays, les hauts fonctionnaires, la moindre des choses serait que tu signes un engagement de 20 ans. Ça serait, à mes yeux, évidemment la moindre des choses.
Il ne l'a pas écarté.
Puisque tu as financé tes études, lui, il a travaillé 3 ans comme inspecteur des finances, puis il a été aussitôt chez Rothschild. Je trouve ça parfaitement scandaleux. Et là, quand il a été élu, quand tous ces financements... au moment de son élection, sont tous ces gens-là. Et donc, il est juste leur fondé de pouvoir,
ben oui.
quelque part. Donc, s'étonner qu'ils fassent leur politique, c'est être de doux rêveurs.
Elle est vivante. Elle a encore la haine au ventre, la rage au corps, la bête immonde. Qu'elle tourne au loin comme un vautour ou rampe et ronge tout autour. Depuis le temps qu'elle fait le trou de sa tanière grise, là-bas, ici, partout, au cœur de chacun de nous. Et l'enfant que la bêtise a conçu avec l'ombre, la bête immonde. Depuis le temps qu'on laisse faire tous les suppôts de son enfer, la bête immonde. Qu'elle a vomi des gestapos dans toutes les guerres, tous les ghettos, la bête immonde. Que des salons dans des salons lui trouvent des excuses, lui trouvent des raisons plébiscitées par des cons. Elle est la fille de la ruse qui naît sur les décombres, la bête immonde. On pleure, ma mère la terre, des larmes de siècles et de sang. Sur les champs qui montent des wagons, les camps, les tortionnaires, les frères qui clouent leurs frères au poteau des religions. Oh, pleure ma mère la terre, au fond de tes entrailles gronde la bête immonde. Oh, 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 oh. Et qui va lui planter un pieu dans le cœur. Elle qui tremble les ethnies, massacre les poètes, étouffe l'homme honnête au paillon des calomnies. Il faut lui faire sauter la tête avec sa propre bombe, la bête immonde. Depuis qu'elle nous pollue l'histoire, à à coups de glaive, à coups de gloire, la bête immonde. Que son crachat sur ton drapeau dépend de ta couleur de peau, la bête immonde. Depuis qu'elle rôde avec sa faux, emblème de son règne, depuis qu'elle dit je t'aime aux cagoules, aux échafauds, faut cribler de chrysanthèmes jusqu'à ce qu'elle succombe, la bête immonde. Oh pleure, pleure ma mère la terre, des larmes de siècles et de sang. Oh pleure. Sur les bouquins dans les bûchers, les cris des ratonnades, sur les croix des croisades et les continents barbelés. Oh pleure ma mère la terre, au fond de tes entrailles gronde la bête immonde. Et qui va lui planter un. La paix qui monte. On pleure, ma mère la terre. Au fond de tes entrailles gronde la paix qui monte.
Ce fromage est fait par Sven au Massalengrin.
Il est très bon ce fromage.
Le petit Sven, je l'ai connu comme ça, tout petit, et de voir qu'il fait ça aujourd'hui, je suis aux anges. Moi qui ai fait du fromage de chèvre aussi, fut un temps Sven. Bravo.
Des belles pousses.
Bravo.
On n'aura jamais goûté ton fromage.
Ben non, j'en fais plus. Mais des jeunes bien, il y en a plein. Il y en a plein.
Et du saucisson, pardon. Du saucisson d'âne. Ça n'existe pas.
Si, ça existe.
C'est une grosse boucle.
C'est une viande trop sèche. Donc tu peux mettre de l'âne, mais il faut qu'il y ait une dominante de cochon.
Ah. Ouais. Mais ça existe.
Ça existe.
Pauvre âne.
Il y a des copains dans les Alpes du Sud qui disent avec les ânes, on a même vu des actes de cannibalisme. Parce qu'une fois, ils avaient des randonneurs qui avaient un sandwich avec un beurre de saucisson, notamment de saucisson avec de l'âne dedans. Et un âne s'est jeté sur le sandwich pour manger le pain, bien sûr, et a mangé le saucisson d'âne. Donc ils disaient, nous avons relevé des actes de cannibalisme.
Ouais, le produit était transformé.
Oui, voilà. Mais je trouvais ça rigolo, le cannibalisme.
Ça fait du bruit, hein.
Tu veux de l'aide?
Non, je vais y arriver. Je voulais surtout rester là.
Eh bien, en tout cas, à part son sel, on boit bien.
Ouais.
Et on boit bon.
Passe-moi la bouteille.
Et on boit bon.
Passe-moi laquelle tu veux.
Passe-moi le godet.
Passe-moi le godet.
J'ai des promesses.
Le sel, on l'a pas vu.
Le sel, il n'y a pas eu de sel. Mais le godet était bien.
Il y a une belle bouteille de jus de pomme, en tout cas, qui n'a pas été.
Oui, alors. Moi, j'ai amené ça, je me suis dit, il y a peut-être des végétariens.
Quand je t'ai vu arriver avec une bouteille comme ça, j'ai dit, oh, il est nouveau.
Alors, tu es originaire d'où, Julien?
De Montpellier, alors.
Avec ta grande barbe.
T'es né à Montpellier?
Ben, j'avais pas ma barbe à Montpellier.
Ah, merde, la barbe.
C'est Léo Canton qui t'a emmené la barbe?
Et toi?
Non, c'est.
Moi, j'ai grandi à Ballaruc.
Des expériences.
Oh, bah, t'étais au bord de la mer. T'étais à Ballaruc des Bains ou Ballaruc des Usines?
Ben, les deux. D'abord les usines, puis les Saint-Jobain.
Ah oui, il y a plusieurs Ballaruc, c'est pas les mêmes.
Ouais.
Ballaruc le Vieux, Ballaruc les Bains.
Oui.
Et le quartier des usines.
Et le quartier des usines.
C'est le troisième au Ballaruc.
Voilà.
Qui fait partie de la commune de Ballaruc les Bains.
Et participer aux joutes Ballaruc? Parce que chez Frontignan, il y avait les
Bains. Oui, bien sûr. Il y a une école de joutes à Ballaruc, quoi. Regarde-moi. Non, non, alors par contre.
Tu aurais pu ramer.
Par contre, j'ai une anecdote. J'ai passé donc mon enfance à Balaruc. Je suis parti à 20 ans dans le massif de la Chartreuse. Où j'ai fait, j'ai passé 10 ans à bosser dans un centre de vacances, tu parlais de colo, etc. Qui appartenait à la commune de Balaruc, qui était gérée par une association.
Balaruc était vacances, communiste à l'époque.
Balaruc était communiste.
C'est plus le cas.
Une des premières communes à avoir mis une association de prévention contre la délinquance.
Oui, ils avaient des dictateurs de rue,
voilà,
et tout ça.
Voilà. J'ai fait partie de la première génération qui a été prise en charge. C'est pour ça que je ne suis pas devenu un délinquant. C'est grave, c'est ça. Voilà. Bref, j'ai passé 10 ans là-bas et dans les Alpes, au milieu des pistes, la commune de Balaruc avait un centre de vacances. Donc, ville communiste égale tous les enfants du sud ont le droit d'aller passer au moins
à la neige.
Une semaine de leur vie à la montagne. En hiver, en été, à l'automne, etc. Donc c'était ça le principe du centre de vacances. Et donc des copains dockers m'avaient ramené des Tintin montés sur ski, des pavois, des lances avec balles de tennis au ski pour pas machin, et on tractait ça avec les scooters des neiges et on faisait une animation. Joute sur neige, on faisait ouvrir le télécabine en pleine nuit pour faire monter les gens, machin, et on faisait démonstration de joute.
Les Balaruquois,
incroyable.
C'est excellent ça.
Démonstration de joute.
Ça, c'est excellent comme symbiose culturelle.
Fait chaud, feu d'artifice.
Ça, c'est chaud. Ça.
Les dockers de 7 en plus.
Ah putain, il était chaud comme la braise.
Il n'y avait rien de petit quoi.
C'était la Semoui des Alpes.
Voilà. C'était
Rasta Rocket quoi.
C'est un peu ça. Il y avait de ça. Il y avait de ça.
C'est fabuleux ça. Ça, c'est pratiquement une BD. C'est une BD. Les vieux fourneaux à côté, c'est de la bibine.
Ça, de nos jours, pareil.
Non, c'est bien les vieux fourneaux.
Rien qu'ouvrir un télécabine en pleine nuit, machin, pour faire monter des gens et leur faire faire des conneries sur la neige, c'est plus possible.
Nos potes nous appellent les vieux fourneaux. On est,
c'est vrai.
On est flattés.
Et, vous, et tu es qui d'ailleurs, les vieux fourneaux?
Je sais pas, je dis rien. Ils choisissent, on dit rien.
Ils choisissent.
C'est dommage que ça soit passé en film, monsieur.
Je l'ai pas vu en film.
Ça, c'est fabuleux.
Ah, c'était. Ouais,
donc, vous avez dû bien faire
mal. J'ai vécu des choses là-haut avec ces gens-là. Cette équipe de dockers, c'était fou.
Ah, ouais.
C'était fou. Ils remontaient ils ramenaient des bonites qui congelaient.
Ouais.
Et on s'est retrouvés au bord des pistes avec les bonites, les cannes à pêche.
Ramener les bonites
dans la neige. Les skieurs, ils passaient à côté.
Parce que
le centre de vacances était vraiment au milieu des pistes.
Ah, c'est fabuleux.
Donc les skieurs passaient.
Ils voyaient les mecs ramener
les bonites. Ramener les bonites.
Qu'est-ce qu'ils foutaient les cannes à pêche.
On faisait brazuca de deux moules dans la neige, sous la neige.
Fabuleux. Puisqu'à l'époque, Seth aussi était communiste.
Oui, et avait un centre de vacances, à 2 km
ah bah
du
voilà,
nord, en bas, à Saint-Hugues. On avait un peu investi la Chartreuse, là, et il y avait un truc, tu vois, entre Saint-Pierre de Chartreuse et Balaruc et Sète, où il s'est fait forcément... Bah, le fait qu'il y ait des centres de vacances, il y avait un partenariat avec la mairie, il y a des enfants de la Chartreuse qui descendaient
à Sète ou à Balaruc,
il y a des gens qui venaient travailler, des jeunes
dans les filets.
La Chartreuse ne devait pas être communiste, la Chartreuse ne devait pas être.
Pas du tout.
Mais ceci dit, les échanges se faisaient.
Les échanges se faisaient, et même encore aujourd'hui, tu vas à Saint-Pierre de Chartreuse, tu as plein de gens avec l'accent du Sud.
Parce que
il y a eu des gens qui se sont installés, il y a eu des amoureux, il y a eu des bébés, il y a eu machin.
À l'amour.
Ouais, un mélange. C'est une des rares stations des Alpes où les mecs des remontées mécaniques, t'en as la moitié comme l'accent du Sud.
C'est génial. C'est génial.
Ça, c'est la diversité.
Juste pour des belles histoires humaines comme ça.
Et ouais.
Voilà, mais et ça, ben, voilà, mais aujourd'hui, les municipalités communistes, il n'y en a plus beaucoup.
Et ça a bien changé, et la ville de Balaruc,
ben, c'est terminé.
Merci à la bande de,
c'est
je ne sais plus comment ils s'appellent, ils ont décidé que ben, le centre n'était pas rentable, qu'il coûtait du pognon.
Il n'est pas aux normes, on le ferme,
ils ont vendu
et
ça.
On le vend à des privés qui sont des mères avec, et qui le transforment en résidence de luxe.
C'est presque ça.
Voilà.
En seigneurial.
C'est un grand classique.
Bon, c'est en Chartreuse, donc ça, c'est difficile.
Oui, de c'est pas les résidences de luxe, non.
Mais en voilà. Cas, voilà, c'est privatisé, machin. Et les gamins de Balaruc.
Oui, allez plus, vous faire boire.
Ouais. Vont plus tous à la montagne, non, découvrir que la montagne, c'est chouette. Et
mais leurs parents ont qu'à se débrouiller, hein, après tout.
Voilà. Et gagner leur vie correctement.
Non, mais ils ont qu'à traverser la rue.
Ils ont qu'à traverser la rue.
Et toi, tu écoutes On va Païs, la radio des Hauts Cantons.
Mais c'était un petit moment que...
On y est, là.
Que nous parlons.
Mais bon, on n'a pas le temps passé.
Ça va faire du tri, sucre, hein. Il va en falloir du tri.
Passe-moi le sucre.
Passe-moi le miel.
Passe-moi
le sucre.
Eh ben, hier soir...
Passe-moi le café, là.
Hier soir, mon fils Antoine, qui revenait du marathon de Paris, ce couillon pour ses 50 piges, a été courir le marathon de Paris. Il l'a fini.
Wow.
En 3h40 ou un truc comme ça.
En 3h ?
3h40.
Les 40 et
4
km. Voilà. Voilà. C'est pas mal. C'est pas le du pavé, mais c'est pas mal.
Ah, joli.
L'Éthiopien qui a gagné gagné en 2h02.
Ouais, hein.
En plus, il a 20 piges, le type. Hein. Donc,
Mais la faim, lui.
Bon, c'est des Éthiopiens. C'est des Éthiopiens, ça compte pas. Lui, il a gagné 50 000 balles. Avec ça, il ouvre une banque en Éthiopie. Un minimum. Avec un yaourt qui ouvre l'épicerie. Donc, vous êtes
horrible,
vous êtes horrible, vous êtes horrible.
Autour de la table, Olivier, Pascal, Julien, Sarah et ma pomme, bien sûr. Et
ma
s'il faut faire un résumé sur toutes ces discussions qui sont faites, on dira en gros, s'il faut faire un résumé, je suis obligé de couper, bah, acheter Playboy, puis je poche.
Il en démarre pas.
Il a cru.
Je crois qu'on aura tout dit, hein, comme ça. Merci à tous d'être venus. Et bien sûr, si l'émission se termine, on continue la soirée ici.
Trop bien.
Salut vous tous.
À la prochaine. Salut.
Tchuss. Tiens, passe-moi une selle.
Vous voyez, moi, c'est la photo qu'on a.
Donc, quoi, c'est bon, tu vois,
je pense.